La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour et bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Vous en connaissez le principe, 15 minutes de questions et de réponses au sujet de la Torah entre Benjamin Wagner, journaliste protestant, et Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour Guy.
Bonjour.
Il y a 15 jours, on est entré dans le cœur de ce passage emblématique où le peuple d'Israël va succomber à la tentation dans la fameuse affaire du veau d'or.
En effet, c'est un passage emblématique mais aussi assez énigmatique à bien des égards. Nous nous arrêtons souvent à l'image hollywoodienne où le peuple se vautre dans le péché et où Moshe descend de la montagne et sous l'effet de la colère brise les tables de la loi de Dieu au pied de la montagne. Nous avons déjà pu nous rendre compte de la complexité de la situation lorsqu'une partie du peuple, tandis que Moshe tarde à redescendre de la montagne, ça fait quand même 40 jours qu'il est parti, et bien que le peuple réclame de voir le Dieu qui l'a fait monter d'Égypte. Aaron est animé d'intentions pas très claires et les leaders de la révolte sont des personnages plutôt ambigus.
Alors justement, on s'était arrêté à ce questionnement au sujet des intentions réelles ou supposées du peuple dans cette demande folle à propos du veau d'or. Donc le peuple finit par tomber dans l'idolâtrie, même la débauche, et c'est juste le moment que choisit Moïse pour redescendre de la montagne.
Oui, et encore, que la conjonction des faits n'est pas ici vraiment fortuite. Mais poursuivons notre texte car nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Donc au chapitre 32, nous lisons à partir du verset 9. « Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire, je vais me mettre en colère contre eux, je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. » Alors il semble que Dieu exprime non seulement sa réprobation, mais aussi son intention d'en finir avec le peuple d'Israël. Si le peuple cherche à voir Dieu marcher au milieu de lui, et en définitive ne voit rien du tout, Dieu en revanche voit parfaitement du haut du ciel. Dans l'ensemble des chapitres 32 à 34 de l'Exode, la grande question centrale posée par les hommes, Moshe y compris, tourne autour du verbe « voir ». Voir Dieu sur la terre, voir la gloire de Dieu, comme si voir était la garantie absolue d'une intimité plus grande avec Dieu. Et je me demande si la réponse divine n'est pas avant tout la certitude que le plus important est d'être vu par Dieu lui-même tel que nous sommes. Moshe n'est pas témoin de ce qui se passe dans la vallée au pied de la montagne. C'est Dieu qui le lui révèle, qui lui dit ce qui se passe. Moshe n'a pas encore ouvert la bouche et n'a pas vu encore de ses yeux et constaté le péché du peuple. Et voilà que Dieu lui dit « Laisse-moi faire » ou « Ne m'en empêche pas ». Curieuse parole, n'est-ce pas? Pourquoi? Moïse a-t-il réellement les moyens d'empêcher Dieu d'agir souverainement? Ou est-ce au contraire une manière d'inviter Moshe à plaider la cause de son peuple? Le Midrash en général présente Moshe comme l'intercesseur qui fait valoir devant Dieu un certain nombre de mérites, dont celui des patriarches, pour éviter au peuple la destruction totale. Dieu connaît la réalité des choses et indique à Moshe son intention de détruire tout le peuple. Incroyable quand même. On retrouve une situation assez analogue avec Abraham intercédant en faveur de Sodome. Un peu plus tôt dans la Genèse, au chapitre 18, Dieu voulait aussi détruire la totalité des habitants de Sodome. Quelle est donc l'intention réelle de Dieu? Le Seigneur se laisserait-il réellement infléchir par les paroles d'un Moshe? C'est là qu'il convient de placer le texte dans une perspective prophétique. Moshe est l'archétype du Mashiach, du Messie, qui vient et il a un rôle effectif d'intercesseur en faveur du peuple. Poursuivons au chapitre 32, verset 11. « Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit, « Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ?» Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en faisant un serment par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé et ce sera son patrimoine pour toujours. Alors le Seigneur renonça au mal qu'il avait parlé de faire à son peuple.
Alors forcément, on est soulagé pour le peuple et pour Moïse, mais on se demande quand même comment est-ce que Dieu s'est laissé convaincre.
Bon, en fait, Moshe fait valoir deux principaux arguments. Le premier, le témoignage tout simplement auprès des nations. La relation de Dieu avec son peuple, pour son bien comme pour le punir, est un puissant témoignage de Dieu auprès des nations. Il semble en effet possible que la destruction totale du peuple aurait sonné comme un message erroné aux peuples alentours qui auraient vu en Dieu quelque part peut-être une faiblesse. Deuxièmement, les promesses faites aux patriarches assurent au contraire que Dieu ne va pas détruire Israël, mais le préserver, même s'il va aussi le juger. La parole divine est avant tout pour Moshe en le confortant dans son rôle. Dieu n'avait pas l'intention de lui compliquer la tâche, qui au demeurant était déjà assez ardue. Le dialogue entre Dieu et Moshe participe avant tout à révéler à Moshe que Dieu se tient réellement à ses côtés pour accomplir sa mission. Curieusement, Moshe va en demander davantage par la suite, en réclamant de voir la gloire de Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. La parole de Dieu va malgré tout s'accomplir, mais pas comme on l'imagine. En définitive, toute cette génération va bel et bien périr, à l'exception de quelques-uns seulement. Dans le cas de l'intercession d'Abraham, au chapitre 18 de la Genèse, Lot, le juste, sera en effet épargné, mais pas la ville rebelle.
Alors, on est rassuré en partie peut-être, et Moïse va bien finir par redescendre de la montagne.
Oui, tout à fait. Mais voyons notre texte, au chapitre 32, verset 15. Moïse redescendit de la montagne, les deux tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tablettes. Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse « Ah, il y a un bruit de guerre dans le camp !» Il répondit « Ce n'est pas un cœur de victoire, ce n'est pas un cœur de défaite, ce sont d'autres cœurs que j'entends. » Comme il l'approchait du camp, il vit le taurillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère, il jeta les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Alors bien entendu, c'était plutôt prévisible. Moshe, constatant lui-même le reproche fait par Dieu à son peuple, se met à son tour en colère et il brise les tables de la loi au pied de la montagne. Et on va en reparler d'ailleurs de ce fait dans un moment. Alors nous n'avons pas le temps de nous étendre sur tous les aspects, mais voyons un petit peu plus loin, au chapitre 32 toujours, mais au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers le Seigneur, peut-être pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. » Moïse revint vers le Seigneur et dit, « S'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux d'or. Si maintenant tu voulais bien pardonner leur péché, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leur péché. » Le Seigneur frappa le peuple d'un fléau parce qu'ils avaient fait ce taurillon, celui qu'Aaron avait fait. Alors Moshe, après avoir remis un peu d'ordre parmi le peuple, s'apprête à intercéder à nouveau en faveur du peuple. Et Moshe s'interroge étrangement sur la façon de faire l'expiation pour le peuple d'Israël. Alors il nous faut, pour le comprendre, nous replonger dans la portée prophétique de ce passage. Et je relève trois éléments intéressants dans notre récit. Le premier élément intéressant se situe au moment où Moshe a brisé les tables de la loi qu'il tenait entre les mains. Est-ce là seulement l'effet de la colère ? Dieu ne semble d'ailleurs pas lui en faire le reproche, et pourtant il y aurait eu de quoi. Exode 32:19 mentionne donc que Moshe jeta les louchot, donc les tables de la loi, qui est le terme en hébreu pour ces tables, en les brisant au pied de la montagne. Or en hébreu, cependant, le terme tachat signifie davantage que simplement au pied, il signifie en dessous ou sous la montagne. Comment peut-on jeter les tables sous la montagne ? Alors à mon sens, dans la perspective prophétique, la parole écrite sur les tables annonce la venue parmi le peuple et sur la terre, marchant au milieu du peuple, de la parole faite chair, telle que l'évangéliste Jean l'évoque dans le premier chapitre de son évangile. Cette parole faite chair va être en quelque sorte brisée, tout comme les deux louchotes l'ont été par Moshe, conducteur du peuple d'Israël, et qui plus est, il le fera volontairement. Par la suite, les secondes louchotes, les deuxièmes tables qu'il va rechercher sur la montagne, vont remplacer les premières qui ont été brisées, indiquant peut-être le retour à la vie de cette parole faite chair. Or, dans le Talmud, dans le traité sur le Shabbat, les rabbanim indiquent que la mention sous la montagne évoque le tombeau, sous-entendu, de leur point de vue en tout cas, le tombeau pour ceux qui rejettent la Torah. Mais pourquoi alors parler de cette manière ? Ne serait-il pas étrange de jeter les louchot, les tables, dans un tombeau ? Le même passage du Talmud, un petit peu avant, affirme que la destruction des louchot remplaçait la destruction du peuple. Et cette deuxième évocation est encore plus étrange. Elle laisse le lecteur encore plus dubitatif. En d'autres termes, pour les commentateurs juifs, la destruction des louchot sert en quelque sorte d'expiation pour le salut du peuple. De la même façon que le Mashiach Yeshua a passé la mort dans le tombeau avant de ressusciter, et ce afin de faire l'expiation pour le peuple. Deuxième élément intéressant se trouve au verset 32 et 33. Et ça nous paraît très surprenant de voir ces paroles de Moshe ainsi données. Verset 32. « Si maintenant tu voulais bien pardonner leurs péchés, sinon, je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur dit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. » En quoi Moshe espérait-il faire lui-même l'expiation en donnant sa vie pour le peuple ? Car c'est ce que signifie en clair la proposition de Moshe. Il demande à Dieu de le considérer lui comme coupable au même titre que le peuple. Dans notre perspective prophétique, n'est-ce pas là justement ce que le Mashiach fera en prenant sur lui la culpabilité du peuple et donc en faisant en quelque sorte l'expiation pour celui-ci. Troisième et dernier élément intéressant, Dieu annonce en définitive que son messager va marcher au milieu du peuple, versets 34 et 35. « Maintenant va, conduis le peuple où je t'ai dit, mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leurs péchés. » Le Seigneur frappa le peuple d'un fléau parce qu'il avait fait ce taurillon, celui qu'Aaron avait fait. Alors, qui est donc ce messager, sinon le Mashiach qui va marcher au milieu du peuple ? Encore est-ce là la perspective prophétique que je propose ? Une des lectures peut être aussi le fait que la Torah va se trouver au milieu du peuple avec les louchot, les tablettes et donc les 10 commandements. On peut aussi se demander si cela n'est tout simplement pas l'ange de l'Éternel qui est la Shekhina de Dieu, la présence de Dieu entre les kérouvim.
Merci Guy pour cet éclairage sur un texte de la Torah. Notre émission touche à sa fin. On poursuivra dans 15 jours avec un autre texte.
Merci Guy, merci Benjamin. Retrouvez le thème et les questions du jour sur le site internet www.lebergerdisrael.org. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.